Fréquence.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Fréquence AFSI. On vous avait laissé dans le grand studio de RTL. Une saison plus tard, nous revenons dans un format 100% dématérialisé à travers cette page radio numérique que vous avez devant les yeux. Elle vous permet donc d'écouter ce programme et toutes les précédentes éditions en intégralité ou via un chapitrage, mais aussi d'avoir accès à quelques données associées comme les visages de nos intervenants. On revient, je vous le disais, et on revient avec un sujet double très fort qui vous concerne tous directement. Qu'est-ce que le métier de communicant interne aujourd'hui et quelle peut être sa carrière ? Ces questions l'appellent beaucoup d'autres sur la place du communicant interne dans les organisations, sur les évolutions de positionnement à l'aune de la crise actuelle, sur les possibilités d'évolution vers la communication externe, les ressources humaines, mais aussi les nouveaux territoires que peuvent représenter le développement durable ou la responsabilité sociale des entreprises. Le sujet est vaste, mais nos intervenants sont talentueux, je ne me fais donc pas de soucis. Je vous les présente tout de suite. Nous accueillons pour cette émission, honneur aux dames, Laura Dieguez, responsable communication interne de Danone Espagne. Hola Laura.
Bonjour.
Avec nous également Lydie Dubernay, responsable de la ligne métier communication à la SNCF. Bonjour.
Oui, bonjour.
Catherine Broyer, directrice de projet chez Inergie. Bonjour.
Bonjour.
Sont avec nous aujourd'hui Thierry Garnier, qu'on ne présente plus. Bonjour.
Bonjour.
Allez, si, je rappelle que vous êtes responsable de la communication interne de Renault Trucks et ancien président de l'AFSI. Pascal Moisy, bonjour.
Bonjour.
Responsable communication d'ArcelorMittal Distribution Solutions, vous nous ferez part de votre expérience de mobilité en entreprise. Régis Vaquier du cabinet One and Only, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous nous exposerez votre point de vue sur le métier de communicant interne sur le marché du travail aujourd'hui. Enfin, Marc Bramoulet sera également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Un jeune communicant stagiaire jusqu'à ces dernières semaines chez Arkema, l'occasion de nous exposer votre toute récente vision du métier. Cette émission s'est également nourrie de vocations, merci à tous. Et on commence tout de suite avec la première partie de cette émission autour du métier du communicant interne.
Fréquence AFSI, invité.
Thierry Garnier, vous êtes le premier invité de cette émission, merci d'être avec nous. En 2005, on le rappelle, l'AFSI avait dressé un référentiel sur les missions du communicant interne. Quel changement, quelle constante observez-vous ? On va en parler tout de suite, mais d'abord, Thierry Garnier, pour rappel, quelles étaient les grandes missions du communicant interne identifiées dans ce référentiel AFSI ?
Bien, en 2005, quand nous avons écrit le référentiel d'activité et de compétences du responsable de communication interne, nous avions identifié 5 missions principales. La première, c'est l'écoute, se mettre à l'écoute du corps social pour bien le comprendre, bien le connaître. La deuxième mission, c'est une mission de conseil des dirigeants, mais aussi conseil du management intermédiaire. Troisième mission, c'est la plus connue, c'est celle qui concerne l'information, donc concevoir les messages, les supports, faire circuler l'information. La quatrième mission, tournée autour du développement de la dynamique collective, donc susciter le débat, créer des événements, fédérer les salariés. Et puis la cinquième mission, c'est la mission de management, manager l'équipe, manager un réseau de communication, piloter la fonction communication.
Et ces missions, où en est-on aujourd'hui ?
Alors, d'abord, qu'est-ce qui n'a pas changé ? J'ai envie de dire que la formation est à la fonction communication interne, ce que la paye est à la fonction ressources humaines. C'est-à-dire que c'est la base, c'est le socle, c'est l'incontournable. Alors, même si les modalités de diffusion de l'information ont changé, la mission de production de messages, de donner du sens à travers les informations fournies, celle-là, elle est toujours centrale dans les activités de la fonction. Qu'est-ce qui n'a pas changé non plus ? C'est la mission de conseil aux dirigeants, conseil également au management. L'attente est forte et sans doute le défi est important pour la fonction communication interne de se positionner peut-être davantage sur cette mission de conseil. Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Enfin, c'est peut-être aussi la mission d'écoute, même si dans de nombreuses organisations, c'est une mission qui est partagée entre la fonction communication interne et la fonction RH.
Des constantes, donc on le comprend bien, mais je suppose qu'il y a également des évolutions notables.
Alors, il y a des choses qui ont changé. C'est la communication de face à face. Elle est concurrencée très très fortement par, d'une part, la mise à disposition d'une information accessible au plus grand nombre, rapide, plus électronique, pas encore plus interactive. Et on voit la difficulté qu'ont les organisations de dégager de l'espace, du temps pour cette communication directe, pour le dialogue. Avec le Web 2.0, ses avantages de mise en relation facile de personnes qui partagent des intérêts professionnels dans le cadre d'une communauté, mais aussi l'inconvénient de rendre peut-être le plus difficile, l'organisation d'un dialogue, d'une communication directe, peut-être tout simplement la communication entre un manager et ses collaborateurs.
Alors aujourd'hui, quelle est la place du communicant interne dans l'entreprise ?
C'est une fonction qui est appelée à devenir un véritable partenaire business des dirigeants. Et pour cela, elle est appelée pas tant à produire un dispositif de communication, des messages, des canaux, des processus, mais surtout à vraiment contribuer à l'atteinte des résultats business. Et ça, au passage, ça pose vraiment la question de la mesure de la fonction. Et peut-être que ça déplace le champ de la mesure. On avait pendant longtemps eu l'habitude de poser la question de la mesure en termes d'efficacité de la communication, efficacité du dispositif. Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit repenser la question de la mesure en termes d'évaluation de la contribution de la communication interne à la performance business.
Alors, on parle de plus en plus de porosité entre la communication externe et la communication interne, avec notamment l'apparition de directions de l'information transverse. À quoi est-ce dû, selon vous ?
Au sein de l'AFSI, nous avons des débats importants sur la question des frontières de la communication interne qui traditionnellement est définie par son public, les salariés de l'entreprise. On sait bien que tout ça évolue. On compte parmi les salariés des fournisseurs. Certains salariés sont détachés chez des clients. Donc la notion de public interne a vu ses contours évoluer. Je crois qu'entre communication interne et communication externe, on a toujours un enjeu de cohérence. On observe sans doute une montée en puissance des thèmes de la responsabilité sociétale sur lesquels, eh bien, communication interne et communication externe partagent des enjeux. Mais il me semble que ces enjeux partagés sont quand même très centrés sur la question de l'image, de la réputation de l'entreprise.
On voit qu'en ces temps de crise et de changement permanent, la question de l'engagement est cruciale, mais que cet engagement tend à reculer. La dernière étude TNS Sofres sur l'entreprise et l'opinion le montre encore. Pour vous, un salarié engagé dans son entreprise aujourd'hui, ça veut dire quoi ?
Moi, je suis engagé d'abord si je suis fier de travailler dans mon entreprise et de contribuer au projet dans lequel je suis impliqué. Deuxièmement, je suis engagé si je suis satisfait, c'est un minimum. Troisièmement, à quoi voit-on que je suis engagé ? Parce que je parle en bien de mon entreprise, je la recommande. Et puis peut-être quatrièmement, je suis engagé si je ne pense pas à chercher un autre travail, tout simplement. Voilà. Quand j'ai réuni ces conditions, fierté, satisfaction, ambassadeur entre guillemets de mon entreprise et puis l'envie d'y rester. Alors là, on peut dire que je suis un salarié engagé. L'engagement, c'est peut-être, je dirais, le travail sur un cercle vertueux. On va chercher d'abord à attirer les candidats, ensuite, une fois qu'ils sont chez nous, à les fidéliser. Les fidéliser, ça suffit pas. On veut aussi qu'ils soient engagés. Et puis, on avance dans le cercle vertueux. Une fois qu'ils sont engagés, il va falloir les développer, développer leurs compétences. Et puis, dans la mesure où ils s'investissent, il va falloir les reconnaître. Et ce faisant, on va attirer de nouveaux candidats, les fidéliser, les engager, les développer, les reconnaître. Voilà, c'est la participation à ce cycle vertueux sur laquelle est attendue la fonction communication interne.
Vous parlez d'image, de réputation. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la communication interne par rapport justement à la communication corporate ?
Au-delà de ces sujets, il reste que la spécificité de la communication interne est réaffirmée, et très fortement. C'est vraiment la singularité de la fonction communication interne que d'être capable d'intervenir sur les thématiques de l'engagement des salariés, sur le soutien aux politiques de management, sur l'appui aux managers dans leur communication opérationnelle. Et ça, c'est vraiment... Voilà. Il y a des partenariats internes qui sont incontournables entre la fonction communication interne et la communication corporate sur les sujets de réputation et d'image. Mais il y a aussi d'autres partenariats sur lesquels il y a une spécificité de la communication interne, en particulier le partenariat avec la fonction ressources humaines, avec la direction de la stratégie, avec les dirigeants de l'entreprise, avec la fonction finance, le marketing, bref, les grandes fonctions de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, oui, la spécificité de la communication interne reste entière et la communication interne n'est pas, de mon point de vue, soluble dans la communication corporate.
Thierry Garnier, merci beaucoup. On l'a bien compris, les missions essentielles du communicant interne ne changent pas, mais l'environnement interne et externe, lui, évolue, influence des nouveaux médias, mobilité des collaborateurs, image et e-réputation des entreprises, avec évidemment une influence sur le métier des communicants internes. Et justement, quel est le ressenti de ces communicants ? Focus sur la dernière édition du baromètre de la communication interne Inergy, avec Catherine Broyer.
Fréquence FCI, témoignage d'experts.
Catherine Broyer, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle, vous êtes directrice de projet chez Inergy. Inergy qui a publié donc récemment, je l'évoquais, une nouvelle édition de son baromètre de la communication interne. Tout d'abord, quelques chiffres. Comment a été réalisée l'étude et auprès de quel échantillon ?
Nous avons interrogé un échantillon de 178 responsables de communication interne du secteur privé majoritairement, mais on a aussi un quart des répondants du secteur public. Puis dans des entreprises de toute taille, avec quand même une tendance à avoir plutôt des grandes entreprises.
Et quels enseignements en tirez-vous ?
Il y a un point très important, c'est la communication managériale. On a le sentiment qu'il y a une meilleure collaboration entre ces deux instances de l'entreprise que sont la communication interne et les managers. Et puis l'autre évolution qui nous semble très importante aussi, c'est un développement massif de l'évaluation de la communication interne. On est passé à 63% des entreprises en 2009 qui ont mesuré l'efficacité de leur communication interne. Et puis on a un certain nombre de signaux faibles. D'une part, c'est dans l'évolution des objectifs assignés à la fonction communication interne, notamment développer l'écoute du corps social. Un autre objectif, aider la hiérarchie à faire descendre et remonter l'information, est très très fort. Et puis, favoriser les coopérations, qui est pris aussi du poids.
Et quel est le portrait type, j'allais dire même le portrait robot du communicant interne aujourd'hui ?
Alors, le communicant interne, c'est d'abord une communicante. 67% de communicants internes sont des femmes. La moyenne d'âge a un petit peu augmenté par rapport à 2005. En 2009, la moitié des responsables com internes a plus de 40 ans. On a un communicant interne en 2009 qui participe plus au comité de direction et qui voit sa rémunération légèrement augmenter. Plus de la moitié des communicants internes qui perçoivent une rémunération supérieure à 45 000 euros brut annuels. Et ce chiffre a un petit peu augmenté par rapport à la dernière vague du baromètre.
Et vous nous parliez tout à l'heure de signaux faibles que votre étude avait détectés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
On a aussi l'arrivée de nouveaux sujets dans le champ de la communication interne, bon, qui sont bien sûr liés à la vie de l'entreprise, soit sur le développement durable, sur la responsabilité sociale de l'entreprise, bien sûr les risques psychosociaux pour 36% des entreprises, mais aussi sur la communication sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, qui a fait son entrée aussi dans les agendas et dans les sommaires des supports de communication interne.
Thierry Garnier a parlé d'un rapprochement plus fort entre la communication interne et la communication corporate. Pour vous, comment évolue la communication interne dans l'entreprise aujourd'hui ?
Il y a des pratiques professionnelles plus abouties, une fonction qui est plus ouverte aussi sur les autres domaines, on l'a vu, avec la porosité, avec aussi une meilleure collaboration avec les managers, on peut même parler de partenariat qui est plus efficace. On a aussi, alors là c'est du côté des salariés, une maturité plus grande des publics, avec notamment la multiplicité de sources d'informations qui permet d'avoir un degré d'exigence aussi plus important. Mais en même temps, on a un certain nombre de freins qui sont très persistants et notamment le positionnement qui n'est pas encore suffisamment stratégique. Et ça, c'est un des points qui se révèle très clairement dans l'emploi du temps. On a essayé d'identifier les différentes activités d'un communicant interne et ils ont réaffirmé en 2009 comme en 2005 d'ailleurs qu'ils consacraient encore trop de temps à la conception du système d'information et des outils au détriment de l'analyse stratégique et de la dimension proprement conseil de la fonction.
Et vous menez également au sein d'Inergie des études d'opinion interne. Quel est l'impact de la crise sur les salariés ?
Alors, on a des choses un petit peu, j'allais dire, en deçà de ce qu'on aurait pu spontanément imaginer en termes de satisfaction au travail, parce qu'on constate à travers nos études que finalement, l'indice de satisfaction globale bouge peu sur les deux dernières années. Tout se passe un peu comme si les salariés, finalement, ont peut-être des degrés d'exigence un petit peu atténués. Pour autant, alors les critères sur lesquels on voit clairement l'impact de la crise, c'est sans surprise la confiance en l'avenir de l'entreprise, qui là, bien sûr, voit son score baisser, de même que la confiance dans son propre avenir au sein de l'entreprise. Tout ça, bien sûr, est corrélé.
Catherine Broyer, merci. Deux nouveaux sujets à gérer pour les communicants internes, on l'a bien compris, du développement durable à la GPEC, mais aussi on l'évoquait, de nombreux enjeux pour la communication interne de demain, avec une collaboration plus ténue entre les différents services de l'entreprise, en France bien sûr, mais également de plus en plus dans une logique de réseau international. Exemple avec Laura Diegues, responsable de la communication interne de la filiale Espagne de Danone.
Fréquence FC. Témoignage.
Laura Diegues, merci d'être avec nous. Alors, chez Danone, je crois que la communication interne du siège et des filiales fonctionne de manière très coordonnée avec les autres services. Concrètement, en quoi consiste votre fonction de communicant interne au quotidien ? Quelles sont vos relations avec les autres services ?
La fonction communication interne fait tout. C'est-à-dire qu'on travaille bien dans les basiques et dans les choses que les salariés attendent comme des basiques de la communication interne, c'est-à-dire des magazines, d'intranet, des communiqués officiels, etc. Mais aussi, on travaille à côté du management pour les aider à bien communiquer, c'est-à-dire à bien faire son rôle de manager, qui inclut, bien entendu, le rôle des communicants.
Et quel est plus précisément votre rôle au sein du dispositif de communication interne global de Danone ?
Mon rôle dans ce dispositif de communication interne au sein du groupe, c'est déjà être en contact avec les corporates qui est en France, qui est à Paris, afin de bien nous coordonner et donc être capable de réagir en même temps et avec les mêmes messages. En même temps, ce n'est pas que top-down, mais aussi bottom-up, c'est-à-dire que quand nous, on met en place une action qu'on considère intéressante pour le reste, on la partage en forme des bonnes pratiques avec les autres responsables de communication interne des BU ou des sociétés. On les fait de différentes formes. Bien, on les formalise dans un document assez simple de quel était mon problème, quelle a été la solution qu'on a proposée et quel a été le résultat. Et deux, on s'est fait des conf-calls, tous les groupes, avec 30 à chaque fois, sinon c'est impossible à gérer. Et là, on explique la situation, qu'est-ce qu'on a fait, on partage les matériaux. Et ça fait plus facile le travail des autres dans les différentes sociétés. Ça, c'est à niveau groupe. Quand on parle à niveau société, à niveau local et donc dans notre pays, mon rôle, c'est plutôt, un, décliner la stratégie globale de communication interne du groupe à niveau pays, mais aussi développer les stratégies de communication interne de la société concernant les priorités business, quelle est la situation du pays, les contextes sociaux, etc.
Le groupe Danone est présent dans de nombreux pays avec sans doute des différences culturelles dans l'approche de la communication. Quel est le lien entre communication interne groupe et celle de la filiale et surtout comment maintenir une cohérence globale ?
Être différent ne veut pas dire être incohérent, c'est-à-dire le groupe Danone est un groupe assez décentralisé. C'est-à-dire que le rôle du corporate, c'est plutôt aider les sociétés dans les pays à faire bien son travail et répondre à des besoins locaux. Et ils ne sont pas dans les contrôles ou dans les top-down. Il faut que vous le faites comme ça. C'est-à-dire, voici un problème commun à tout le pays. Voici quels sont les messages qu'on doit faire passer ou ce qu'on espère de nos salariés. Et après, c'est à nous, c'est-à-dire aux responsables de communication interne locaux, de décider comment mieux le faire. C'est-à-dire, moi j'ai la liberté de dire, chez moi, ça ne marcherait pas, et donc je préfère le faire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ben oui ou non, ou ils nous aident à construire cette proposition différente ensemble.
La communication interne chez Danone est donc impulsée par le siège. Comment vous positionnez-vous et quel est votre espace de liberté en tant que responsable de la communication interne d'une filiale ?
Depuis 5 ans, on travaille à bien positionner la communication interne dans les sociétés et aussi dans le groupe. Aujourd'hui, il y a une Acceleration Unit au sein du corporate qui nous aide et qui fait deux boulots différents. C'est-à-dire, un, qui travaille dans le contenu et qui travaille dans les comment faire et dans l'animation du réseau, mais il travaille aussi au développement des ressources des communications internes. L'objectif, bien entendu, c'est de nous positionner bien à côté du top management pour être capable de les aider à bien communiquer. Comme on parlait avant, la proximité et le rôle de management dans la communication, c'est clé. Et si la communication interne est bien positionnée, c'est possible d'aider les managements.
Et je crois qu'il y a des relations fortes entre la direction de la communication et la DRH.
Tout à fait. Dans tous les BU, la dépendance hiérarchique est toujours bien de la direction communication, bien de la direction RH, mais en lien hiérarchique direct. On participe dans presque tous les comités de direction, bien on conseille, dans les projets importants, on est toujours présente. C'est clé pour être capable de bien faire, c'est-à-dire faire communiquer.
Laura Diegues, merci beaucoup pour votre témoignage. Un bon exemple de coordination interservices et internationale avec des enjeux importants de cohésion des équipes et des stratégies groupes et filiales. On l'a vu également, beaucoup de liberté laissée par le siège aux filiales et aux équipes sur le terrain. C'est d'ailleurs une demande qui revient de plus en plus dans le discours des jeunes communicants internes en attente d'interactivité et de management participatif. On écoute tout de suite le Benjamin de cette émission, Marc Bramoulet, jeune diplômé et communicant interne junior.
Fréquence FC, invité.
Marc Bramolet, on le rappelle, vous étiez il y a quelques mois encore en stage de fin d'études chez Arkema. En quelques mots, quel a été l'objet de votre stage ?
En fait, chez Arkema, donc, j'ai réalisé 6 mois de stage et j'étais prolongé en contrat d'intérim. J'étais mandaté pour mettre en place donc, une plateforme d'innovation participative concernant principalement donc, un sujet qui est la simplification au sein de l'entreprise. Donc comment on pouvait faire appel aux idées des collaborateurs pour simplifier l'organisation. Donc du coup, c'est surtout comment faire évoluer les mentalités, amener des outils participatifs à être mis en place et puis surtout amener les salariés à y adhérer. Et c'est pas forcément chose évidente. Et puis il y a aussi le biais des managers qui ont, je pense, appréhendent de donner la parole à leurs équipes et que du coup on passe directement des équipes au plus haut du management quand on fait appel à leurs idées. Il y a beaucoup de conduite de changement dans ce genre de plateforme. Puis bah c'est passionnant.
Et en tant que jeune diplômé avec un regard neuf, j'allais dire, sur la fonction de communicant interne, qu'est-ce qui vous a marqué lors de vos premières expériences ?
Je me suis rendu compte au travers de mes stages que la fonction de communication interne n'était pas toujours bien perçue de par les autres fonctions de l'entreprise ou par les plus hautes sphères des entreprises. Pour moi, il y a un rôle majeur de la communication interne dans l'avenir des entreprises sur comment on peut amener justement les entreprises à évoluer dans le sens du 2.0, à faire évoluer les mentalités, à fédérer les collaborateurs au-delà des outils intranets.
Alors, je reviens sur la question de l'engagement. Thierry Garnier en a parlé en début d'émission. Comment percevez-vous l'engagement des collaborateurs dans leur entreprise aujourd'hui ?
On voit que les cadres attachent une plus grande importance maintenant à la communication interne qu'à leur rémunération. Je pense que les collaborateurs ont aujourd'hui envie de se sentir considérés, de participer au-delà de leur outil de travail, de ce pourquoi ils sont embauchés à la vie de l'entreprise. Elle a un vrai rôle à jouer sur amener les plus hautes sphères de l'entreprise à prendre en considération ces outils 2.0, davantage prendre en souci en considération le facteur humain et le facteur psychologique, comment amener les salariés à être motivés davantage. Une grosse part RH, mais il y a une grosse part comme interne aussi, j'en suis persuadé.
Marc Bramolet, avant de vous quitter et de continuer justement sur le sujet de la carrière du communicant interne, quel est selon vous l'avenir de la communication interne ?
Pour moi, il y a une grosse part de knowledge management ou gestion des connaissances pour capitaliser sur tous les papy boomers maintenant qui vont partir à la retraite et puis sur tout le savoir qu'ils ont pu accumuler au travers de leur expérience dans leurs entreprises. Du coup, c'est amener ces employés à partager leur savoir avec les plus jeunes au travers d'outils 2.0, mais aussi au travers de rencontres et beaucoup de belles perspectives pour ce métier-là.
Marc Bramolet, merci et bonne chance dans la suite de votre carrière. Alors, on l'a vu tout au long de cette première partie, la communication interne évolue avec la complexification des entreprises. Si les missions en elles-mêmes changent peu, l'environnement évolue, le métier et les compétences aussi, avec toujours des valeurs propres et des spécificités. De nouveaux sujets aussi, de nouveaux enjeux et un impact de la crise économique encore difficilement mesurable chez les communicants internes. Les entreprises attendent des salariés qu'ils soient plus mobile, avec des compétences plus diversifiées. Certains grands groupes, on le verra avec ArcelorMittal par exemple, impulsent eux-mêmes le changement et montent en compétences leurs collaborateurs. De nombreuses questions se posent pour les communicants internes actuellement en poste. Comment évoluer dans son entreprise ? Quelles perspectives offertes en interne, en externe ? Rester dans la communication interne ou évoluer vers d'autres métiers ? On en parle tout de suite dans cette deuxième partie, plus spécifiquement consacrée à la carrière du communicant interne. Et pour commencer, focus sur les métiers de la communication à la SNCF avec la responsable de la ligne métier communication, Lydie Dubernet.
Fréquence FC, témoignage.
Lydie Dubernet, merci d'être avec nous aujourd'hui. La SNCF s'est engagée dans un remaniement des métiers de la communication avec de nombreux changements à la clé. Comment avez-vous procédé pour faire évoluer vos collaborateurs en interne ?
Alors, en termes de perspective, notre première réflexion a été de nous dire on a des adaptations. Puisque la SNCF a connu quand même un changement très important depuis quelques années, notamment lié à la nouvelle donne de la concurrence. Donc il était important que la population des communicants soit le mieux adaptée possible pour accompagner ce changement auprès notamment des managers de l'entreprise. Pour cela, on s'est posé une première question fondamentale, qui est très importante pour une ligne métier, qui devrait être évidente, mais qui était tout simplement « mais qui sont nos communicants ?» sous un angle métier. Alors là, on ne s'intéressait pas au nom, au prénom, à l'âge, mais véritablement à ce qu'ils savaient faire, véritablement, quelle était leur plus-value dans l'entreprise en termes de communication. Donc pour faire ce diagnostic, on a élaboré un référentiel. Le référentiel a été réalisé, listant un certain nombre de compétences avec deux populations. Donc deux référentiels, une population pour nous de postes clés, c'est-à-dire des postes véritablement à impact très fort dans l'entreprise, et puis un autre référentiel pour l'ensemble des autres équipes de communicants.
Donc un travail important de montée en compétences des collaborateurs. Sur les postes que vous appelez les postes clés justement, quels sont les atouts qui favorisent cette évolution ?
Alors, sur les postes clés, ce qui nous est apparu vraiment essentiel, c'était de développer la hauteur de vue et l'esprit stratégique. Puisque justement, pour accompagner les managers, et donc particulièrement les dirigeants de l'entreprise, il était très très important de connaître non seulement l'activité, mais les enjeux qu'elle portait, et puis d'être capable de mettre en place des dispositifs qui permettront de maximiser l'impact de la communication sur ces sujets. Bon, il y a environ un peu plus d'une trentaine d'items qui permettront à chaque communicant de faire sa propre introspection.
Et quel est le schéma utilisé pour les autres postes ?
En ce qui concerne l'autre référentiel pour les équipes, ce que l'on va rajouter, c'est les savoirs techniques métiers. Comment faire pour préserver nos intérêts et mettre en valeur notre image ? Et puis aussi tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies et la façon dont fonctionne Internet, leurs utilisateurs, la notion de blog, donc tout ce qui nous emmène vers des notions de veille permanente sur ce qui se dit et les nouvelles pratiques.
Oui, en effet, c'est une vraie stratégie de formation continue interne. Et quelles sont les cibles touchées par cette campagne de recrutement interne ?
Donc aujourd'hui, était jusqu'à présent surtout identifiée la passerelle assez classique avec des gens qui avaient des compétences de type marketing ou commercial. Pour autant, ça suffit pas parce que nous, ce que l'on veut, c'est évaluer d'une conception du métier de communicant assez généraliste, les pousser davantage vers une spécialisation. Et pour faire ce type de spécialisation, y compris dans plusieurs domaines, il faut que les gens y restent au sein de la fonction communication le plus longtemps possible. Il est très très important pour nous de stabiliser cette population en les aidant à se valoriser, en leur donnant les outils qui vont leur permettre de se valoriser auprès notamment des managers d'autres métiers de l'entreprise. Donc voilà un petit peu plus comment on entend la notion de parcours. C'est à la fois une gestion individuelle, avec permettre à chacun une montée en compétences, mais c'est aussi une gestion un petit peu plus collective en se disant, on va segmenter notre population et on va être, en fonction de cette segmentation, capable de, je dirais pas de dresser un parcours balisé et obligatoire pour tout le monde, parce qu'on n'est plus du tout là, mais de leur montrer les points, si vous voulez évoluer vers ce type de choses, voilà grosso modo ce qui serait bien que vous arriviez à faire.
Bon alors tout ça, ça a l'air de très bien marcher sur le papier. En pratique, est-ce qu'il y a des obstacles ?
Alors, le premier frein, c'est qu'on agit sur une petite population. Parce que même si la population des communicants à la SNCF est importante, c'est à peu près 600 personnes qui font quasiment à temps plein de la communication sur l'ensemble du territoire français, sur une entreprise de 155 000 personnes. Après, ça va être notre capacité à mobiliser les communicants eux-mêmes sur l'intérêt d'anticiper sur leur mouvement de personnel. Donc il faut que nous, on arrive à sortir d'une action habituellement assez réactive à une action beaucoup plus proactive.
Pour aller plus loin, on sait que la SNCF, comme beaucoup d'autres grandes entreprises, s'engage dans le développement durable, l'écomobilité, avec notamment des modifications de discours dans la communication corporate. Est-ce que ça change quelque chose dans le travail des communicants internes ?
Il me semble qu'il s'agit davantage d'une nouvelle thématique à traiter pour les communicants, pour accompagner justement le développement stratégique de l'entreprise qui fonctionne autour de la notion d'écomobilité, que véritablement des nouveaux métiers pour les communicants. Ça demandera peut-être justement encore plus de hauteur de vue et de vision stratégique pour justement être capable de mieux expliciter le concept d'écomobilité. Et qu'est-ce que ça peut signifier quand une entreprise comme la SNCF souhaite le développer et démontrer qu'elle en est le leader ?
Lydie Dubernet, merci beaucoup. Un bel exemple de capitalisation sur les équipes et sur les compétences des collaborateurs. Bonne continuation donc dans ce projet de montée en compétences de vos équipes. Revenons maintenant au communicant interne et à sa valeur sur le marché du travail. On a fait appel à un expert, Régis Vaquier.
Fréquence FC, témoignage d'experts.
Régis Vaquier, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous êtes associé du cabinet One and Only et vous êtes expert en recrutement. Alors tout d'abord, comment appréhendez-vous les compétences développées par le communicant interne tout au long de sa carrière ?
La communication interne, tout comme la communication dans son ensemble, sur des postes plus généralistes, il n'y a pas de généralité ou de solution universelle, mais c'est plutôt des tendances. La communication interne est vraiment spécifique en entreprise et fait appel à des savoir-faire qui permettent ensuite d'évoluer vers d'autres métiers ou d'autres responsabilités. Moi, à ce stade-là, j'en identifie quatre. Il y a d'abord l'aspect qui touche à la communication sociale et communication ressources humaines. Il y a tout ce qui touche à l'information et l'information à deux niveaux, à la fois l'édition, qu'elle soit online ou offline, et donc à des savoir-faire qui touchent au rédactionnel et au management d'équipe éditoriale. Et toujours sous cette partie information, il y a l'événementiel et les conventions. Donc ça nécessite d'avoir certains savoir-faire en matière de coordination d'équipes métiers aux métiers variés. Et enfin, deux autres savoir-faire, c'est le management et le pilotage de projets multisites et internationaux. Et je crois que c'est un sujet sur lequel vous reviendrez tout à l'heure. Et le dernier élément, c'est des compétences en matière de suivi budgétaire, de planning et de relations avec des prestataires extérieurs comme les agences. Ça veut dire quelque part d'acheteurs de prestations.
Et quelle est, selon vous, l'évolution du métier de communicant interne sur le marché du travail actuel ?
Alors, je me base sur ce que j'ai vu de l'évolution des métiers de la communication dans les grandes organisations. Les évolutions, elles sont dans trois directions. Première évolution, c'est une évolution toute simple, horizontale. Il y a des responsables de la communication interne qui sont passionnés par ce métier, qui ont envie de rester des experts de la com interne. Et dans ces cas-là, l'évolution se fait davantage sur des périmètres. Donc on va vers des entreprises plus grandes, on passe de la PME au groupe, ou on passe de la responsabilité nationale à une responsabilité de région ou internationale globale. La deuxième, c'est une évolution plus verticale vers d'autres métiers de la communication, et notamment la communication externe, pour prétendre à des postes de DIRCOM généralistes. Et enfin, une évolution qu'on va appeler plutôt diagonale, qui peut permettre à des experts de la communication interne d'aller vers d'autres métiers, comme les ressources humaines. Et j'ai vu des responsables de la com interne passer à des métiers RH comme la formation ou la gestion des carrières, ou de la gestion de projets qui ne sont ni des projets de com interne, ni des projets RH, qui peuvent être notamment l'accompagnement d'une intégration dans le cadre d'une fusion ou d'une cession.
Alors, on voit également se dessiner une autre tendance, qui est le développement durable. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission. C'est un effet de mode ou une opportunité pour les communicants internes ?
Je ne pense pas que ce soit un effet de mode, puisque les entreprises portent une attention profonde à cet item. Là où il y a encore une absence de repères, c'est la responsabilité même et l'attribution même de cette fonction dans l'organisation. On y voit des spécialistes de la communication. Et ce peuvent être aussi des spécialistes de la com interne. J'ai envie de dire que c'est une évolution possible vers un élargissement des responsabilités de communication auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Mais tout ce qui touche à la RSE ou au développement durable, on voit à la fois des spécialistes de la com, mais aussi des spécialistes du marketing, des spécialistes ingénieurs et de la production qui, dans certaines industries, se voient confier ce type de responsabilité. Donc oui, les responsables de la com interne peuvent tout à fait prétendre, et je les y invite d'ailleurs, à prendre sous leur responsabilité des projets de cette nature.
Et comment, aujourd'hui, selon vous, faut-il construire son parcours quand on est un communicant interne ?
L'important est, au fur et à mesure de la construction de son parcours, de faire des choses, de bâtir des projets, d'acquérir des compétences progressives dans le domaine technique, propre à la communication interne, et si on a envie de passer vers un poste plus global, vers la communication externe, ça veut dire toucher aux relations presse, aux relations publiques ou aux affaires publiques. Cela nécessite aussi de toucher à des nouvelles techniques plus modernes, comme le online par exemple, donc tout ce qui touche à l'intranet et à l'internet, bien sûr. Ça veut dire s'internationaliser progressivement. Voilà comment je construirais, ou en tout cas j'inviterais, les experts de la com interne qui veulent faire autre chose que de la com interne à terme à bâtir leur parcours.
Pour résumer, quelle est et quelle sera la place du communicant interne dans l'entreprise aujourd'hui et demain, selon vous ?
Dans les grandes organisations, regardez aujourd'hui des structures comme la SNCF, ils font de la com externe, mais ils font avant tout aussi de la com interne pour permettre à chacun de leurs cheminots et salariés de porter le bon message auprès des usagers ou des clients. Donc c'est un poste qui va prendre de plus en plus d'importance dans les organisations, parce que la réputation externe se bâtit d'abord sur l'interne, parce qu'il y a des messages à faire passer auprès des salariés. Donc je suis plutôt confiant sur le fait que dans les prochaines années, ces postes-là vont être très demandés.
Régis Vaquier, merci. On l'a vu, les communicants internes ont des compétences recherchées dans les autres domaines de la communication, du management à la gestion de projet. Des compétences qui permettent donc aux communicants internes d'évoluer de manière horizontale, verticale ou encore diagonale. De belles opportunités à saisir pour les communicants internes qui ont envie de bouger. Et c'est le cas de Pascal Moisy, qui nous parle de son évolution au sein de différentes entreprises et désormais chez ArcelorMittal Distribution Solutions.
Fréquence FC, témoignage.
Pascal Moisy, vous êtes notre dernier invité, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler brièvement votre parcours ?
Alors mon parcours, c'est un parcours marketing communication. J'ai fait un court passage en agence de publicité et ensuite je suis rentré dans un bureau d'études marketing dans la grande distribution. Et puis j'ai évolué ensuite comme chef de produit au sein d'un grand groupe agroalimentaire qui m'a permis à un moment donné de prendre en charge le développement de l'intranet pour la France. Et progressivement, j'ai élargi en fait cette fonction-là sur d'autres sujets de communication interne, un petit peu plus classiques on va dire. Et puis je dirais qu'à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, donc c'était il y a environ un an et demi, d'entrer chez ArcelorMittal comme responsable éditorial, en ayant une dominante communication interne, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y avait également des sujets, on va dire, relatifs à la communication externe, notamment tout ce qui est corporate responsibility. Et puis, après quelques mois, eh bien, on m'a proposé de prendre le poste que j'occupe actuellement, qui est donc un poste de responsable communication, aussi bien communication interne que externe.
Et donc, vous êtes chez ArcelorMittal Distribution Solutions, une entité spécialisée dans le négoce et la distribution des produits d'ArcelorMittal. Concrètement, ce poste à double casquette, il consiste en quoi ?
Alors mon métier, c'est vraiment de prendre en charge la communication aussi bien interne qu'externe d'ArcelorMittal Distribution Solutions au niveau mondial. Ça consiste d'une part à mettre en place toute la stratégie de communication interne et puis les outils correspondants et essayer d'aider, on va dire, les différentes sous-entités qui composent ArcelorMittal Distribution Solutions dans toute leur action de communication interne. Ensuite, pour la partie communication externe, c'est un rôle de support de ces entités-là pour développer leur stratégie de communication, qu'elle soit tournée, on va dire, plus dans le domaine commercial vers les clients, ou bien carrément de la communication un peu plus publicitaire via la communication sur le web, sur des supports papier, etc.
Et pourquoi avez-vous accepté ce nouveau poste ? J'ai même envie de dire ce nouveau défi.
Alors, je dirais que c'était une façon pour moi de m'inscrire dans une logique de progression. J'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication interne. Élargir, on va dire, à des domaines plus larges de la communication, aussi bien interne qu'externe, ça me paraissait être une progression logique. Et puis, je dirais que c'était aussi la volonté d'aller un petit peu au-delà du cloisonnement qu'on fait habituellement entre communication interne d'une part et communication externe d'autre part, qui a sa pertinence en termes de cible, mais qui n'est pas parfois complètement justifiée dans la mesure où, même si on s'adresse à des cibles différentes, on a souvent l'occasion d'aborder des thématiques identiques. Et cette fonction-là me permet justement d'avoir une vision un petit peu plus large, un petit peu plus globale, et d'avoir cette capacité à faire une synthèse des messages aussi bien internes qu'externes, quelles que soient les cibles auxquelles on peut s'adresser.
Alors, votre évolution dans ces agences, ces entreprises et sur des postes différents, ça a l'air plutôt simple. Quel est en fait le secret de ce parcours déjà bien rempli ?
Je crois simplement et surtout qu'il faut toujours veiller à être, on va dire, acteur de sa carrière, c'est-à-dire à faire en sorte que les opportunités qui peuvent se présenter puissent être saisies et puis parfois les générer. Essayer de faire en sorte d'être actif pour, d'une part, valoriser les activités qu'on a pu avoir et puis être toujours en veille permanente. Alors après, il y a aussi, je dirais, une question d'opportunité qui se présente. Pour moi, ça s'est présenté sous la forme de ce poste de responsable éditorial qui était une fonction un peu transversale et qui m'a permis, on va dire, de rebondir et de faire un petit peu la synthèse de ce que j'avais pu faire avant. Et aujourd'hui, l'évolution que j'ai connue était finalement un aboutissement presque logique par rapport à mon parcours antérieur.
Et vous envisagez alors d'autres évolutions à court ou à moyen terme ?
Alors, dans un premier temps, je crois que ce qui est important pour moi, c'est de poursuivre l'expérience que j'ai à l'heure actuelle, puisqu'elle est quand même encore assez récente. J'ai encore plein de choses à voir et plein de choses à faire dans mon métier actuel. Je dirais qu'ultérieurement, il y a un domaine moi qui m'attire assez depuis un certain temps, qui est plus lié à la communication externe, mais dans un domaine plus institutionnel. Je pense qu'un certain nombre de sujets liés évidemment au développement durable, liés à la responsabilité sociale de l'entreprise sont des domaines qui vont de plus en plus se développer et passer, on va dire, du discours posture à un vrai discours de fond. On y assiste déjà progressivement. Je pense que ça va être de plus en plus vrai dans les années à venir et probablement ce sera un domaine qui méritera effectivement à être défriché, à être approfondi et à devenir une vraie dimension de la communication à part entière. Donc je dirais que c'est une piste qui m'intéresserait, mais dans l'immédiat, on va dire, j'ai un certain nombre de chats à fouetter, donc je vais continuer sur le poste que j'occupe actuellement, qui est déjà, lui, très très riche et très varié.
Et pour votre carrière future, vous vous voyez uniquement dans la communication ?
Alors, c'est une bonne question. J'en ai encore à peu près pour 25 ans devant moi d'activité professionnelle. Donc, 25 ans dans la communication, c'est sans doute faisable. Maintenant, est-ce que d'ici quelques années, je serai lassé ou pas ? Ça, je ne sais pas encore. Après, je dirais que les compétences qu'on peut développer en communication et, on va dire, les types de profils que l'on retrouve sont aussi applicables à d'autres domaines professionnels qui peuvent être, par exemple, la formation. Donc, ça peut être aussi, je dirais, une piste de développement. Personnellement, j'ai toujours souhaité travailler dans le domaine de la communication. Ça a été la logique qui a sous-tendu mes études, on va dire. Et aujourd'hui, je suis loin de m'ennuyer dans cette fonction-là. Donc, tant que je continuerai à m'amuser et à prendre du plaisir dans ce métier, je poursuivrai parce qu'effectivement, je crois que le plus important, c'est quand même au quotidien de pouvoir se faire plaisir dans son métier.
Pascal Moisy, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà un exemple d'évolution réussie dans tous les domaines de la communication avec aujourd'hui un poste à deux casquettes. Bonne continuation donc chez ArcelorMittal. On arrive au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos intervenants. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Fréquence AFSI revient très vite pour une nouvelle émission. À bientôt.
Fréquence, fréquence, fréquence. AFSI.